Aidons-nous les uns et les autres. À Studio Tamani, la bonne information est également une manière d'aider la population. Nous sommes dimanche 5 novembre et vous écoutez votre émission humanitaire sur les antennes de nos radios partenaires. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres.
Nous allons parler aujourd'hui du parcours des déplacés internes à la recherche de refuge. Sur place, on constate que la première aide est souvent donnée par les communautés d'accueil.
L'invité de cette semaine est Dr Amadou Beydjara. Il nous parlera du traumatisme et comment s'y remettre.
Notre proverbe du jour dit que la paix rend les peuples plus heureux et les hommes plus faibles, Mariam.
Installez-vous confortablement et c'est parti pour une demi-heure d'information. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission humanitaire. Au micro, Mariam et
Draman Meiga.
Nohum Diré assure la mise en onde. Draman, et ce dimanche?
Ça se passe bien, on se tend vers une nouvelle semaine.
Oui, mais la nouvelle semaine a déjà débuté.
Oui, certainement, parce qu'on est déjà au studio.
Effectivement, et comme nous l'avons annoncé dans les titres, nous allons parler des déplacés internes qui vivent plusieurs difficultés dans leur déplacement vers des zones plus sûres.
Ils sont nombreux à avoir tout laissé derrière eux pour fuir les attaques des hommes armés. Plusieurs déplacés dans leur fuite ont trouvé refuge dans des familles d'accueil, d'autres sur les sites dédiés aux déplacés et certains se débrouillent tout seuls.
Tout à fait, Draman. De Saint à Tombouctou, en passant par Badjangara, la situation des déplacés reste critique et les besoins d'assistance humanitaire, surtout en vivres, demeurent énormes.
Suivons alors ce reportage de Kwandiara pour plus de compréhension.
Bien que des efforts soient consentis par les autorités pour le retour des déplacés, la situation sécuritaire du pays continue de pousser certains à fuir leur localité. Dans la quête des zones de sécurité, ces déplacés sont confrontés à plusieurs difficultés. Dans la région de Saint, les déplacés qui viennent chaque semaine dans la ville sont nombreux. Yaya, Amara et sa famille font partie des nouveaux déplacés de Saint. Selon lui, ils ont été dépossédés de leurs biens et chassés du village par des hommes armés.
Nous nous sommes installés à Saint après l'attaque de notre village, Doumé. Ils ont détruit tous nos biens. On a juste pu fuir avec les habits qu'on portait. Les femmes qui ont essayé d'emporter du matériel ont été battues par les hommes armés. Le village dans lequel on était avant d'arriver à Saint a été attaqué également. Finalement, nous avons décidé de venir en ville pour être en sécurité. 3 jours après notre arrivée, nous n'avons reçu aucune aide.
Le service de développement social sur place précise que les nouveaux arrivants sont surtout confrontés à un problème de logement. Certains sont obligés d'occuper des maisons inachevées. Lamine Traoré, chef du service de développement social et de l'économie solidaire de Saint.
Ceux qui viennent d'arriver n'ont pas de logis à Saint. Il n'est pas facile pour eux d'avoir un logement. Ils sont parfois obligés d'habiter dans des maisons inachevées. Dans la ville de Saint, les quartiers comme Lafiabougou, Médine, Parana et jusqu'à Sienso, il y a plusieurs déplacés dans les quartiers. Ils occupent des maisons inachevées qui sont sans fenêtres ni portes. On ne peut pas dire qu'ils sont en toute sécurité dans des conditions pareilles.
À Badjangara, dans la 19e région du Mali, les déplacés ont certes reçu une assistance humanitaire, mais elle reste insuffisante face à l'ampleur des besoins. Le vœu de ces déplacés internes est la sécurité afin qu'ils puissent retourner dans leur village.
Nous avons quitté notre village à cause de l'insécurité. Nos animaux, dont des bœufs, ont été amenés par les groupes armés. Nous faisons des activités journalières pour subvenir à nos besoins. Certains ONG nous viennent en aide pendant des durs moments. Nous souhaitons que les autorités fassent tout pour restaurer la paix en nous permettant de retourner au Berkay.
Nous avons beaucoup de difficultés car nous n'avons pu rien emporter avec nous à part les habits que nous portons. Ici, nous recevons de l'aide de la part des personnes de bonne volonté. Tout ce que nous demandons, c'est le retour de la paix pour retourner dans nos villages pour cultiver, car c'est le seul travail que l'on maîtrise.
Toujours dans la même ville de Badjangara, certaines familles s'organisent pour accueillir les déplacés. Mais beaucoup de ces familles sont confrontées au problème de manque de vivres, comme nous explique Ali Tapili, chef de famille à Badjangara.
Ils sont nombreux ceux qui ont fui les attaques des villages pour venir chez nous ici en famille. Ils sont nos parents et leurs villages ne sont pas loin de nôtres. Nous nous connaissons très bien. Le manque de vivres rend difficile la prise en charge de ces déplacés. Actuellement, les temps sont durs et nous-mêmes, nous sommes déjà dans une situation très difficile. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de nous venir en aide avec des vivres.
En plus de sang et de Badjangara, Tombouctou compte également plusieurs milliers de déplacés internes. Pour ces deux femmes rencontrées au village de Bangkor, dans le siècle de Goundam, l'aide en ce moment leur est indispensable pour pouvoir nourrir les enfants.
Nous avons reçu de l'aide composée de mille et du lait. Mais jusqu'à présent, nous avons besoin de l'aide. Nous avons tout laissé dans nos villages. On n'a rien.
Depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons même pas reçu un demi-kilo de riz. À notre arrivée ici, nous avons été enregistrés, mes enfants et moi. Je suis une femme enceinte qui n'a rien.
Selon le directeur national du développement social, les mesures sont prises pour soulager les déplacés au Mali. C'est dans ce contexte que Ibrahim Abba affirme que des sites d'accueil des déplacés internes sont en cours d'aménagement partout au Mali.
Les plus hautes autorités du pays nous ont instruit que désormais, qu'on trouve dans toutes les capitales régionales, des sites de déplacés, déjà au niveau de Gao, on a un site de 10 hectares qui a été aménagé, qu'on appelle le village Espoir. À Tombouctou, nous avons aujourd'hui un site qui est en cours d'aménagement. À Menaka, nous avons un site qui est en cours d'aménagement. Et nous sommes dans les dispositions d'identifier un autre site à Bamako ici pour pouvoir recevoir les personnes en déplacement forcé. L'accompagnement des partenaires de l'État se fait de plus en plus sentir et nous sommes dans la phase de relèvement pour que les personnes puissent vivre dans des situations idoines.
Sur plusieurs sites de déplacés internes à travers le pays, la demande fréquemment formulée par ces déplacés est la sécurité pour favoriser le retour dans leur localité d'origine.
Un reportage signé Kwan Djara. Avec nous sur ce plateau, notre expert en santé sociale, communautaire et comportementale, Dr Amadou Bédiara. Avec lui, nous allons parler de comment se remettre d'un traumatisme et surtout l'apport de l'entourage. Mais déjà, Monsieur Djara, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'écouter déjà ce reportage de Kwan Djara. Quel est votre regard sur l'assistance que la communauté donne à ces personnes déplacées internes?
Ok. Ces personnes déplacées internes nécessitent une assistante particulière parce que c'est des personnes qui ont quitté leur lieu de résidence habituel suite à des événements, souvent à des crises, à des conflits. À des violences. Donc, ils se trouvent dans une situation dans une autre localité, souvent sans habit, et sans rien à manger, sans rien à boire. Donc, c'est des personnes qui méritent une attention particulière, et, quelle que ce soit la communauté ou bien de façon individuelle, les organisations humanitaires doivent les apporter vraiment de l'aide et du soutien nécessaire, enfin, qu'ils puissent se rétablir, enfin qu'ils puissent se ménager, et se rendre compte qu'ils sont dans une communauté qui sont protégés et de la rassurer.
Vous venez de parler des difficultés. Alors, comment se sent-on après avoir vécu une situation horrible pareille que vous venez de citer?
Il faut noter d'abord une personne qui a vécu une situation horrible, c'est une personne qui est en état de choc ou dans une situation de crise. Ou bien c'est une personne qui a vécu une période longue de stress. Il faut noter que c'est des personnes qui sont très vulnérables et c'est des personnes qui peuvent se répandre très facilement sur tout ce qui s'est fait et sur tout ce qui s'est dit. C'est des personnes qui peuvent avoir des troubles comportementaux, d'autres appellent des troubles psychiques, mais il faut comprendre que c'est des troubles comportementaux qui sont liés à l'événement dont ils ont vécu. Et parmi ces troubles comportementaux, il peut avoir une atteinte, une altération de la notion du temps chez ces personnes. Donc, ensuite, ces personnes peuvent avoir du mal à penser ou bien du mal à se comporter habituellement. Dans certains cas, ça peut être les troubles psychiques peuvent se manifester même par un sentiment d'impuissance, de confusion. Tu sais, la personne est confuse. Ou bien d'émotions violentes. il faut noter que tout cela, c'est, si on prend les cas express de ce qu'on vient d'écouter, les déplacés internes suite à des crises internes, les déplacés, les conflits, c'est des situations qui surviennent. C'est la peur qui fait que ces gens-là souvent quittent leur localité. Donc à cause de la peur, c'est des gens qui refusent de manger, qui refusent de boire, souvent qui refusent même de parler, qui refusent même de marcher, parce qu'ils ont peur de la situation qu'ils ont vécue.
Alors, avec tout ce que vous venez de décrire tout à l'heure, cet état d'esprit impacte-t-il le quotidien de ces personnes rescapées?
Bien sûr. Ça impacte sur leur quotidien. Et tout ce qui se trouve dans cette situation de crise, d'état de choc suite à des violences, à des conflits armés, c'est des personnes qui méritent une assistance, c'est des personnes qui méritent un soutien particulier qu'on appelle le soutien psychologique. D'autres appellent le premier secours psychologique. Et en la matière, c'est le premier soutien en la matière qu'on peut donner à ces gens-là. Tous les autres soutiens doivent trouver qu'on a donné le premier soutien qui est le premier secours psychologique. Donc, c'est des gens, comme je l'ai dit, dans un premier temps, ça cause de la peur de l'événement qu'ils ont vécu. C'est des gens qui refusent même de parler. C'est des gens, personnes qui refusent de manger, de boire, de marcher. Il y a une altération de leur façon de voir les choses. Il y a une altération du temps. On est dans la nuit, mais ils pensent qu'on est dans la journée. Il y a certains, ils dorment la journée, mais la nuit, ils sont en état d'éveil. On appelle ça une inversion du rythme nocturnel. Donc, la nuit, ils sont en état d'éveil. La journée, ils veillent. Donc, c'est des troubles psychiques. Et parmi ces troubles psychiques, il y a les troubles psychiques mineurs. Il y a modéré et puis il y a chronique. Donc, et les troubles psychiques chroniques, c'est ça qui va amener jusqu'à... Il y a certaines personnes qui consultent des psychiatres et en ce moment, on les met sous des médicaments. Et tout cela arrive si dès l'acte qu'on doit poser depuis que la situation s'est éclatée, qui est le premier secours psychologique, si ça, c'est pas bien fait, donc ces personnes peuvent se trouver dans un état de dépression et qui a besoin de l'intervention d'un psychiatre pour introduire des médicaments. Mais il faut noter que, quelle qu'en soit la situation, ces personnes ont besoin d'être accompagnées. Il y a l'accompagnement du premier degré, parce qu'il faut rester en contact avec ces personnes, et puis il faut les suivre, voilà, et puis il faut leur montrer les ressources nécessaires qui vont leur permettre de se ménager.
Merci beaucoup, docteur Amadou Bé Diarra. Vous allez rester avec nous pour la deuxième partie de cette émission. À présent, notre rubrique sketch avec Zabiatou et Hamadi.
Effectivement, Mariam, après l'attaque de son village au centre du pays, Hamadi apprend que son oncle est dans un état second. Alors, il parle seul et est même devenu agressif. Il se trouve actuellement dans un centre de déplacés à Mopti. Il en parle à Zabiatou pour trouver une solution.
Bonjour, Hamadi. Comment vas-tu? Hamadi, réponds-moi. Pourquoi ce silence? Tu m'inquiètes, hein?
Hé, hey Zabiatou, excuse-moi. Je suis absorbé par mes pensées. Chez moi, ça ne va pas. Je suis inquiet et très attristé par une situation.
Il y a quoi encore? Il faut te confier aux gens. Qui sait? Il y aura peut-être une solution à ton problème. Raconte.
Mon village a été attaqué au centre du pays. Alhamdoulilah, beaucoup de personnes ont pu s'en sortir. Parmi elles, mon oncle. Il a perdu sa femme et ses enfants. Et depuis, il est inconsolable. Il ne parvient pas à se remettre du traumatisme vécu.
Hamadi, ne stresse pas ainsi. Il faut plutôt songer à sa prise en charge. Ton oncle est où actuellement?
Il se trouve actuellement sur un site de déplacés dans la ville de Mopti.
Tu sais, sur le site, les organisations humanitaires ainsi que les services de développement social s'occupent des personnes déplacées internes. Leur prise en charge totale en abri, vivre et assistance psychosociale est également assurée.
Merci beaucoup, ma belle Zabiatou. Tu viens de me remonter le moral avec toutes ces informations. Je vais appeler mes proches pour partager tout cela avec eux. Comme cela, mon oncle sera pris en charge.
C'était là la rubrique Sketch avec Zabiatou et Hammadi. Nous retrouvons à présent notre expert en santé sociale, communautaire et comportementale, Dr Amadou Bejara. Nous allons parler cette fois-ci des astuces pour se remettre d'un traumatisme ou d'un choc, comme il vient de le dire si tôt. Docteur Maître Deja, vous avez écouté ce sketch tout à l'heure avec un village qui a été attaqué, un rescapé qui est dans un état second. Alors, comment venir en aide à une personne qui a vécu une situation horrible?
Merci, Mariam. Une personne qui a vécu une situation horrible, la réussite dépend des gestes qu'on pose, depuis les premières heures, des gestes qu'on pose. On appelle ça le premier secours immédiat. Et de façon secondaire, ça c'est d'autres soins qui peuvent venir après le premier secours immédiat. Une personne qui a subi une situation horrible, si on prend l'exemple des cas de déplacés sud à des conflits armés, c'est rescapé. Dans un premier temps, il faut prendre contact avec ces personnes, se présenter. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma classe sociale? Je suis médecin ou bien je suis un représentant de la communauté? Je suis un dignitaire du village ou bien je suis un humanitaire? Quelles sont mes compétences? Prouver à la personne que je suis là pour vous et je suis là pour vous aider à rassurer la personne. Ensuite, si la situation le permet, il faut enlever la personne de la scène angoissante. Quand tu enlèves la personne de la scène angoissante, il faut protéger la personne, limiter les vues pour que la personne ne puisse pas entendre les bruits. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un coup de feu, il faut mettre la personne à l'abri de tout ça et à l'abri des bruits. Parce qu'à moindre bruit, la personne va penser que c'est des coups de feu, c'est des hostilités qui vont reprendre. Ensuite, il faut protéger pendant la période de crise la personne des médias et des badauds. Parce que si la personne écoute les radios et qu'il entend qu'il y a eu des attaques au niveau du village, il va se rendre compte de la gravité, il va se rendre compte de certaines choses et ça peut aggraver l'état de la personne. Donc il faut protéger la personne de ça. C'est des gens souvent qui ne parlent pas. Donc il ne faut pas les forcer à parler. Mais il faut les demander qu'est-ce qui ne va pas, les amener à parler de ce qu'ils ont vécu, de dire ce qui ne va pas. Quand ils commencent à parler, il ne faut pas les interrompre. Il faut respecter leur point de vue. Il faut les rassurer que tout ce qu'ils sont en train de dire, tout ce qu'ils sont en train de faire comme comportement, c'est normal. Il faut les rassurer que leur comportement, c'est normal. S'assurer qu'il y a une personne qui est en contact permanent avec la personne. Donner à la personne tout ce qu'il faut. Si je dis donner à la personne tout ce qu'il faut, il y a de l'habillement, il y a la nourriture, il y a la boisson, évidemment, il faut éviter de l'alcool. Il y a de l'abri. Demande à la personne, est-ce que la personne a un abri? Si la personne n'a pas un abri, cherchez un abri pour la personne. Avant, dans certaines situations, aider la personne à décider, parce que d'autres peuvent décider d'aller au niveau des sites de déplacer, mais d'autres peuvent dire que okay, j'ai un parent dans quelle ville. Donc, aider la personne à décider, à prendre une décision. Ensuite, si tu dois libérer la personne, si tu dois se rendre dans une localité où qui est loin de toi, qui est en train de faire le premier secours, surtout la communauté, il faut rester en contact avec la personne. Rassurer la personne que vous allez rester en contact avec lui et que, ou bien quelqu'un de la famille pour suivre. Et en définitive, enfin, ce qu'il faut faire, il faut expliquer clairement à la personne les ressources dont il a besoin pour se ménager. Donc ces personnes ont besoin de cet accompagnement et c'est des techniques, il y a des étapes pour venir en aide à ces personnes. Donc ça, c'est les gestes qu'on pose en termes de premier secours pour venir en aide à une personne qui a vécu une situation horrible, une situation de crise.
D'accord. Ces premiers secours dont vous venez de parler, c'est les communautés elles-mêmes qui donnent ces premiers secours ou les autorités?
Comme je l'ai dit, en termes de premiers secours psychologiques, si quelqu'un subit un événement, un choc, c'est la communauté d'abord. La communauté, s'ils quittent leur village, ils viennent dans une communauté, dans l'intérêt de cette communauté, les personnes responsables qui sont dans cette communauté doivent avoir ces astuces-là pour mettre ces personnes-là à l'aise. Donc, secondairement, au niveau de l'État et les autorités, il y a des services techniques tels que le développement social, il y a des ONG humanitaires, donc ils viennent au niveau secondaire pour apporter des vies, pour apporter de la nourriture, pour les amener au niveau des sites de déplacés, pour les construire de l'abri, pour leur donner des soins médicaux, pour leur donner les premiers soins qu'il faut. Voilà.
Et qu'en est-il aujourd'hui de l'insertion socio-professionnelle de ces personnes-là? Est-ce qu'après cet état de choc subi, ils parviennent à s'insérer facilement, que ce soit dans la vie professionnelle ou encore au sein de la population?
Ces personnes déplacées qui ont subi des chocs, un événement de choc, leur insertion sociale, c'est souvent difficile. Parce que ça dépend des gestes qu'on pose. Parce que si le premier secours psychologique n'est pas bien fait, c'est des personnes qui peuvent prendre de l'écart à la population, à la communauté. Notamment, ce qu'il faut faire dans un premier temps pour une très bonne insertion de ces personnes, il faut être présent pour ces personnes. Parce que c'est des personnes qui n'ont plus envie de vivre. C'est des personnes tellement qu'ils ont subi des chocs, des états de choc. C'est des personnes qui n'ont même plus confiance à la vie. Donc il faut les rassurer. Il faut être présent. La communauté doit montrer qu'ils sont présents pour ces personnes-là. Et qu'ils sont là pour ces personnes-là. En leur créant un environnement favorable. En leur donnant un abri. En prenant ces personnes en charge. S'ils ont une famille, les donner là où dormir. Là, leur donner quelque chose à manger, à boire. Même les enfants, les inscrire à l'école. Donc, il faut développer un environnement favorable pour ces personnes-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester à l'écoute active, à l'écoute attentive de ces personnes. Parce que pour aider quelqu'un, il faut l'écouter. Pour recenser ses besoins, et c'est en fonction de ses besoins et de tes moyens, tu peux aider la personne. Donc, en les écoutant, il faut respecter leurs sentiments. Parce que c'est des personnes qui expriment des sentiments. Il ne faut jamais leur dire que non, ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas bon, c'est faux. Même si ce n'est pas le cas, il faut les accompagner. Et à la longue, ils vont savoir que ce n'était pas la bonne réponse.
Merci beaucoup, docteur Amadou Bey Diarra, notre expert en santé sociale, communautaire et comportementale. Monsieur Diarra, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. À présent, nous allons découvrir notre artiste de la semaine.
Mariam, il s'agit de qui?
Il s'agit d'un jeune talent. Comme on remarque ces temps-ci, il y a beaucoup de jeunes talents qui émergent dans la musique. Et son nom, c'est LP Kirikou. C'est son nom d'artiste. Il fait plusieurs genres musicaux. Allons à sa découverte dans cet entretien réalisé par Ousmane Nyalibouli.
L'artiste invité de la semaine, nous sommes aujourd'hui avec LP Kirikou. LP Kirikou, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Bien, alhamdoulilah.
Tout va bien?
Dieu merci.
LP Kirikou, ça c'est ton nom d'artiste. Peut-on savoir ton nom à l'état civil?
Moi c'est Hella Keita à l'état civil, plus communément appelé LP Kirikou. Je suis artiste-chanteur. Je fais plus précisément de l'afro. Voilà, mais c'est varié. De l'afro dancehall, de l'afro mandingue. Et so on et so forth.
Alors, donc, comment est-ce que c'est venu? Naturellement, c'est venu ou c'est dans la famille, tu as trouvé?
Non, pas du tout. Il n'y a personne chez nous qui chante. Déjà, je suis le seul artiste et le seul chanteur. Et j'ai commencé à écrire en 2009, je crois bien, oui. Mais mon premier son en studio, c'était en 2011. Et on était en groupe. Voilà, on faisait ça pour s'amuser de base. Mais après, j'ai vu que c'était une vocation. Bien que j'étais dans le football, mais voilà, je me suis plus dirigé vers la musique. Et là, je continue de faire les trucs.
D'accord, mais tu as fait d'album?
Pas encore.
Qu'est-ce que tu attends?
J'ai fait une mixtape et un EP. Uh-huh. Et il y a un autre EP à deux parties qui doit arriver. Et juste après ça, je crois, on va se lancer sur l'album.
Ok, tu parles de quoi dans tes chansons?
Moi, je parle un peu de tout. Hein. Je parle de la jeunesse, je parle de moi. Principalement, ce que je traverse. qui est semblable à ce que beaucoup de personnes traversent mon quotidien et l'actualité souvent, très très souvent même. Et voilà.
Alors on sait que, on sait que tout métier, l'art aussi, il y a des difficultés. Oui. Parce que as-tu rencontré quelques difficultés?
Ah ouais, ça on continue d'en rencontrer. Ça ne va pas finir d'aussitôt, mais on fait avec.
Alors, comment tu comptes surmonter ces difficultés et comment est-ce que tu comptes faire pour avoir le succès?
Déjà, j'aime bien le dire, et la chance vient avec le courage. J'ai déjà l'amour du truc et j'ai beaucoup de courage. J'ai quelques personnes qui m'aident à côté et je crois qu'avec ça, je suis très très sûr que je vais faire connaître ma musique à vraiment une échelle vraiment vraiment internationale. J'ai confiance.
Et à l'échelle nationale, ça se passe comment?
Non, ça se passe très bien. J'ai déjà fait des millions de vues, déjà. Et j'ai tourné un peu au Mali. Bon, on essaie de bosser encore plus pour faire plus d'avantages.
Et tu as eu affaire à des featuring avec d'autres artistes?
Si, si, j'ai collaboré sur deux collectifs avec Sidiki, Naini, plein d'artistes, hein. Mob Jack, les Jamisako, les Ibawan, c'était deux collectifs. Et ensuite j'ai eu à collaborer sur mes propres sons avec Darkev, avec Lil Z, avec Black Nond, avec Debeto, je crois avec presque voilà, tout le monde, même si c'est pas sur mes propres projets. Il y a des gars qui m'ont invité sur leur projet, qui sont sortis et d'autres qui sont en stock jusque-là.
Et les études, c'est fini? Tu continues?
J'avais fini. Bon, j'avais fait une pause. J'ai eu ma licence en 2018-2019. Ça m'a donné le temps de me concentrer sur la musique, mais je compte bien continuer avec les études.
Alors, et si on te demande de donner des conseils aux jeunes artistes, qu'est-ce que tu les dirais?
Je leur dirais d'aimer beaucoup le truc d'abord. Et de ne rien lâcher. Voilà. De surtout bosser, d'y croire. C'est que comme ça que ça va venir. Voilà.
D'accord. Donc avant de se séparer, Nakapela.
Imaron nous m'enseigne. Nejo la monte la fia. Chouni cléo wegangelega soru koni en fouet de tendusola. Mouna benjou ya ton. Afonye mouna bengoni ya ton. Jeli mandia foura te ferre soula. Ne manta ingarawa.
Merci, Alpe Kirikou.
Docteur Diarra, la jeune génération en musique, vous écoutez?
Pas tellement.
Pas tellement, ou bien le docteur est très occupé pour ces choses-là.
C'est ça.
On dit la musique adoucit et apaise le cœur également.
Bien sûr.
Donc vous n'écoutez pas du tout la jeune génération?
Pas tellement.
Pas tellement. D'accord. Et nous allons partir pour notre dernière rubrique de cette émission. Et c'est le proverbe de la semaine.
Notre proverbe de la semaine dit ceci, Mariam. La paix rend les peuples heureux et les hommes faibles.
Qu'en pensent les citoyens? On en sait plus dans ce micro-trottoir réalisé par Khalifa Guita.
Bonsoir, on dit que la paix rend les peuples plus heureux et les hommes plus faibles. Quel est votre avis sur ce proverbe?
Pour moi, quand il y a la paix, ça peut rendre les peuples heureux. Ça n'arrange pas les personnes corrompues en fait. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas la paix, ça ne les arrange pas. Et ils visent les intérêts dans la corruption et non dans la paix. Ouais.
On peut dire qu'en temps de paix, les habitants de la cité s'entendent. Particulièrement les citoyens les plus faibles tirent beaucoup de profit en ce moment. Ils comptent et se sentent concernés. Mais contrairement en temps de guerre, les faibles sont les plus vulnérables. Il s'agit particulièrement de la couche, les jeunes et les femmes.
C'est vrai pour moi, quand on vit dans une société, on va accepter les défauts des autres et laisser ce qu'on veut. Le fait de laisser ce qu'on veut, ça peut nous rendre heureux. Que la guerre n'est pas bonne pour qu'on puisse vivre la paix. Il faut respecter les règles de la société et regarder les traces de nos anciens, comment ils ont fait pour vivre.
Quand il y a la paix au monde.
Dramani, toi, tu en penses quoi?
Je pense qu'il faut la paix vraiment pour le développement. Sauf quelques rares personnes qui ne vont pas aimer, qui s'enrichissent dans la guerre.
Docteur, votre appréhension sur ce proverbe?
Bon, rien ne vaut la paix. Tout ce qu'on fait sur la terre, si on est productif, c'est qu'il y a la paix et la sécurité, rien ne vaut la paix. Mais il y a les bandits de grand chemin, il y a certains, ils vivent de l'instabilité.
C'est sous vos mots, Dr Diarra, que prend fin cette émission. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure et sur la même fréquence. Vous pouvez écouter cette production à tout moment sur notre site internet au www.studiotamani.org.
À Studio Tamani, la bonne information est également une manière d'aider la population. Merci donc pour la fidélité constante.
En conclusion, vous l'aurez compris, pour se remettre d'un traumatisme, il faut l'apport de la communauté, mais également il faut
être présent pour les déplacer en les créant notamment un environnement favorable.
Ne pas les forcer à parler, être patient avec eux et surtout les rassurer à tout moment.
Il faut aussi un secours immédiat pour les personnes rescapées d'un choc en les mettant à l'abri des bruits, Mariam.
Donc, Draman, c'est la fin de cette émission présentée par Mariam Maïga et
Draman.
Ne décrochez pas car juste après, vous aurez la version en bambara.